portons tous des masques, il vient un temps où on ne peut plus les retirer sans s'arracher la peau. André Berthiaume, né le 15 mai 1938 à Montréal, est un romancier, nouvelliste et essayiste québécois. Berthiaume a enseigné la littérature française et québécoise à l'Université Laval. Notre devise pour une émission spéciale, apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain, Albert Einstein.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 21 décembre 2021. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien, dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Émission spéciale, le port du masque à l'école. Pour cela, nous recevons Lise Natanson, psychologue, Féfé, une maman, et Monsieur Rodrigo Arenas Nunoz, adhérent FCPE National, au téléphone. Sylvie, peux-tu nous présenter les chroniqueurs et le thème du mois?
Alors, on pourrait croire que c'est une mode, une tradition, pas du tout. Un masque, mais ce n'est pas un Mardi Gras ni un bal, non. Un masque tout simplement pour aller à l'école. Un masque qui fait tant polémique. Oui, petits et grands, personne n'y échappe, le masque pour une mesure barrière à Omicron variant du Covid-19. Voilà plus d'un an après l'arrivée du virus, le remède trouvé pour ne pas fermer les écoles, ce sont les gestes barrières et le masque. Des mamans crient au scandale, des papas se fâchent, des médecins sont favorables à cette mesure, d'autres médecins pas du tout, une vraie cacophonie. Tandis que certains souhaitent ne pas prendre position. Et nous, dans tout cela, qu'en pensons-nous ?
Avant une réaction, on va demander à chaque chroniqueur de se présenter. D'abord, Féfé, maman.
Oui, bonjour. Donc, ben, oui, je suis maman de deux adolescents de 14 et 16 ans. Et je suis également tata de trois petits bouts de 10, 5 et 4 ans.
Lise.
D'accord.
Alors, je suis également maman de deux adolescents de maintenant 18 et 13 ans. Et je suis psychologue, psychothérapeute. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des services reliés à l'aide sociale à l'enfance, dans des institutions accueillant des enfants et des mamans victimes de violences conjugales. Et je travaille actuellement en libéral. J'accueille, entre autres, des enfants.
Rodrigo.
Bonjour. Bah, écoutez, je suis Rodrigo Arenas. Je suis papa de quatre garçons, deux adolescents, 16-17, et deux plus petits, un de 11 ans, un de 7 ans. J'habite la Seine-Saint-Denis et j'ai été coprésident de la FCPE nationale pendant quelques années. Et maintenant, je suis adhérent dans mon conseil local. Et c'est très, très bien, parce qu'il faut s'occuper des enfants bénévolement. Parce que s'occuper des enfants, s'occuper de l'école. Et en France, la République, c'est l'école, et l'école, c'est la République.
Alors, on va commencer par reparler de la réaction des jeunes. Alors, moi, n'ayant plus d'enfants en bas âge, hein, je ne sais pas si le fait de porter le masque à l'école à longueur de journée, même durant la récréation, puisse gêner un enfant en primaire, un collégien ou un lycéen. N'oublions pas les étudiants qui, donc, ont voulu quand même stopper leurs études avec un chiffre alarmant. 54% de ces jeunes voulaient arrêter leurs études. Je ne sais pas si le masque occasionne des dégâts sur leur santé physique ou psychique. Je ne sais pas si des troubles d'angoisse surgiront ultérieurement. Je ne sais pas si des perturbations dans le développement de leur personnalité, telles que l'estime de soi, la confiance en soi, les rendront aptes à vivre correctement. Et comme je ne sais pas, et étant de nature curieuse, j'ai essayé de comprendre la situation en allant me renseigner directement auprès des enfants, de mes amis. Et tout d'abord, ce qui m'intéresse, c'est connaître la réaction de nos enfants, de nos ados, face à ce qu'ils vivent actuellement. Pour cela, on va donner la parole aux jeunes. Hein. Gérard, tu as été interviewé des collégiens. Peux-tu d'ores et déjà nous donner un petit peu tes impressions quand tu les as interviewés, ces jeunes?
Eh bien, apparemment, ils n'étaient pas du tout stressés par le port du masque. Ils le portaient tous régulièrement, sans aucun problème. J'aurais demandé à ceux qui ne l'avaient pas, ils m'ont dit « c'est un oubli de notre part ». Donc, vous verrez bien, à un moment, je leur pose quelle est la sanction qu'ils auraient si jamais ils étaient pris sans masque. Bon, ils disent en rigolant 2 heures de colle, mais j'ai demandé, en aucun cas ça s'est passé, il n'y a pas eu de sanction. Moi, donc on peut l'écouter, puis on verra bien ce que derrière, ce qu'on pourra en penser. Hein.
Quelle classe ? 6e C.
Depuis combien de temps vous êtes obligé de porter le masque à la récréation ?
Depuis 1 an ou 2. 2 ans.
Oui, deux ans.
Et dans le collège, là, c'était obligatoire tout le temps.
Oui, oui. Oui.
Bah, non, il y a eu un moment où on pouvait le mettre.
Pouvait le mettre sous notre menton dans la récréation.
C'était il y a un moment.
Uniquement dans la récréation.
Oui, oui.
Après, et qu'est-ce que ça vous fait maintenant de le porter sans arrêt pendant la récréation?
Bah, moi, maintenant,
c'est bien de l'enlever quand il y a la cantine.
Moi, maintenant, c'est une habitude.
Ouais, moi aussi.
Donc, moi, ça me dérange plus.
C'est un peu gênant pour l'hiver parce que vu qu'il fait froid, il y a des gouttes dans le masque. Donc, bah, c'est un peu gênant. Mais bon,
ça,
après,
ça réchauffe.
Ça réchauffe.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et le fait de le porter en permanence dans la journée?
Non, ça va.
Bah, quand il fait chaud l'été, c'est, ouais, c'est énervant.
Oui, quand il fait très chaud, c'est vrai que t'as chaud avec le masque.
Mais là, pour l'instant, tel que c'est aujourd'hui, ça vous gêne pas?
Non, ça va.
Ça réchauffe.
Ouais. Ça y est, vous êtes habitué.
Oui.
D'accord. Bah, très bien, merci.
Merci. Au revoir.
On va essayer de trouver un petit groupe un peu...
Un peu rebelle.
Un peu rebelle.
Bonjour. On va vous déranger juste un petit peu.
Non, moi, ça ne dérange pas.
Vous êtes de quelle classe?
Cinquième.
Attendez. Cinquième.
Quels sont les inconvénients que vous trouvez au port du masque, par exemple, ici, en cours de récréation ou en classe?
En fait, ça, des fois, comme il gratte, on ne peut pas l'enlever. Du coup, on ne peut pas aller faire ça. On ne peut pas l'enlever. Du coup, c'est un peu...
Du tout.
Moi, je trouve que c'est pas que par rapport au masque, mais que aussi... au moindre inconvénient du masque, par exemple, que le masque glisse et tout ça, qu'on le resserre, que ça nous fait mal un peu aux oreilles et tout ça. C'est pas très... Enfin, c'est pratique par rapport au Covid, mais au bout d'un moment, je sens qu'on va craquer, quoi, à propos du masque. Et que...
Le masque empêche que les gens respirent bien. Il y a d'autres qui sont asthmatiques et il y a d'autres qui peuvent s'étouffer avec le masque. Donc, du coup, il y a d'autres qui ne supportent pas de porter le masque dans la classe et pendant la récré. C'est tout.
Nous, ça nous fait des buts à les lunettes, par exemple. On peut rien voir. Et du coup, il faut mettre en tout le nez, sauf que le masque, on doit mettre sur le nez. Du coup, c'est un peu embêtant pour nous, parce qu'on voit rien, presque rien un tableau.
C'est chiant, parce que quand on court, après, quand on a le masque sur le nez, obligatoirement, après, on s'essouffle plus vite, puis après, c'est compliqué.
Mais en gymnastique, en EPS, vous êtes obligé de le porter?
Non, quand on pratique, non, mais sinon...
Dans la course, c'est ça qui est un peu pénible, on ne peut pas l'enlever. C'est un peu pénible parce que quand on court, comme Kylian l'a dit, on ne peut pas respirer et des trucs comme ça, du coup on s'essouffle et voilà.
Et quelles sont les sanctions que vous encourez si on vous trouve là, par exemple, dans la course en masque?
Soit c'est une observation ou soit c'est une heure de colle.
Une observation et voire une heure de colle, bon.
La sanction, encore une fois aussi, un mot ou chez le CPE ou là. Si c'est plusieurs fois, c'est exclusion, si c'est plusieurs fois.
D'accord. On vous remercie.
Bonjour, vous êtes quelle classe?
Troisième F.
Troisième E, allez, F. Gérard. C'est pas la télé, la radio.
On va juste vous poser une petite question. Quels sont les avantages et surtout les inconvénients que vous trouvez à porter le masque en permanence à l'école?
L'avantage, c'est qu'on... Il y a moins d'épidémies, forcément, le virus il se propage moins. Et puis après, inconvénient, on a du mal à respirer, c'est gênant au quotidien.
C'est moins.
Et même pour les gens, par exemple, moi je suis asthmatique, j'ai du mal de temps en temps à respirer, à le porter toute la journée. De toute façon, on est obligé, on essaye de le porter le plus possible. Mais sinon, en soi, ça ne dérange pas tant que ça.
Ça fait depuis combien de temps que vous le portez?
Deux ans.
Depuis le début.
Depuis la cinquième.
Vous n'avez même pas eu une période où vous auriez pu l'enlever pendant la récré
Je crois que c'était une semaine.
Ouais.
Et après, c'est direct reparti, on remet le masque.
Vous ne mettez pas autre chose qu'un masque bleu? C'est toujours le même?
Oui.
Il n'y a pas des jeunes qui mettent une couleur comme moi, rose?
Il y en a qui en mettent d'autres, mais principalement, je vois tout le monde avec des masques bleus et je crois que ça ne gêne pas. Il n'y a pas de différence.
En cours, ça vous gêne pas trop d'avoir le masque?
C'est un peu plus dur pour parler, mais il faut parler plus fort.
C'est
pas grave. Au bout d'un moment, on prend l'habitude et...
D'accord.
Ça ne permet pas aussi de bavarder avec son voisin sans qu'on s'en aperçoive?
Non, jamais.
Non,
jamais.
Surtout rien.
Quoi, moi?
Surtout toi?
Bon, maintenant, ça ne vous gêne pas de le porter en permanence?
Non, maintenant, on est habitué. Puis, au bout d'un moment, on est habitué, ça ne change plus rien.
À votre avis, quand est-ce que ça va s'arrêter, le port du masque?
Jamais.
Si, à un moment.
On va tous mourir.
On a le temps.
On va tous mourir.
On a le temps.
On sera mort,
peut-être.
Plus d'un an encore.
Et juste une petite question. Vous êtes pour Vous êtes pour ou contre le vaccin?
Ah, pour.
Pour.
Contre. Contre.
Contre. Contre.
Attends, attends, contre. Attends. Ceux qui sont pour, pourquoi?
Bah, moi, c'est juste pour aller dans les restaurants, au cinéma, prendre le train, tout ça.
Se protéger, pouvoir aller au cinéma, etc. Aller faire des loisirs, partir en vacances, etc.
Non, mais être libre des choix.
En vrai, je suis pas forcément pour comme ça, mais c'est beaucoup plus avantageux et ça... Même si c'est pas forcément bien, tout le monde le pense, mais ça avantage beaucoup plus, c'est beaucoup plus pratique et t'as beaucoup plus de... C'est beaucoup plus simple, la diabec.
Et vous, vous êtes vacciné?
Ouais.
Oui. Oui.
Non.
Première, combien de doses?
Deux. Non, on fera pas la troisième.
Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'est une petite question subsidiaire.
Hein, oui, je vois ça sur le vaccin, voilà, tout à fait. Quel est votre ressenti aux paroles de ces jeunes? On va peut-être commencer par notre psychologue. Lise, si tu as quelque chose à rajouter, à dire là-dessus. Et après, on verra le masque et les apprentissages, on verra le masque et la santé. Donc voilà, là, qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends tous ces jeunes qui parlent du masque en disant que c'est une simple habitude et que maintenant, ils ont vraiment pris le pli quoi, pour le mettre depuis deux ans.
D'abord, je salue cette initiative de les interviewer, de les interroger, parce que je pense que c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare à l'école, au collège et au lycée, en tout cas de ce que j'ai pu personnellement observer. Et on ne demande pas l'avis, en fait, à ces écoliers, collégiens et lycéens.
Mais le problème, Lise, c'est qu'on ne demande jamais l'avis. Nous, on essaye de plus en plus, au niveau de Pédago Rondo, de les inviter, de venir prendre la parole. Et parfois, on est même assez étonnés de voir comment ils réfléchissent, comment ils réagissent. Et c'est très intéressant.
Oui. Alors voilà, c'est sympathique de les entendre. Moi, ce que je note, enfin, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce terme d'habitude. On est habitué, qui est revenu à plusieurs reprises. Et on pourrait être rassuré en tant qu'adulte, en tant que psychologue, en tant que parent, en tant qu'enseignant, et se dire finalement, c'est pas si grave. Ils s'habituent, ils s'adaptent. Mais on sait en psychologie qu'il ne s'agit pas, en fait, d'adaptation saine, mais de suradaptation. Qui est pathologique, en fait. Bien sûr qu'ils s'adaptent. Les enfants s'adaptent à tout. Un enfant peut même s'adapter, peut même s'habituer à dormir dans un placard. On le sait quand on a l'habitude de travailler sur la maltraitance. Donc, c'est pour moi absolument pas rassurant, même inquiétant. Et globalement, à part quelques adolescents plus rebelles, je dirais que je suis inquiète de cette docilité.
Attends, il y en a un qui m'a fait juste une remarque. Excuse-moi. Maintenant, le masque, c'est comme mettre la ceinture dans une voiture.
Oui, mais c'est ça, exactement ça. Moi, je les trouve très, très résignés.
C'est des choses qu'ils entendent aussi,
oui,
des adultes.
Oui, peut-être des adultes, je pense.
Mais en fait, moi, quand j'entends ces enfants, ces adolescents parler, en fait, je me dis qu'ils subissent en fait, ce protocole sanitaire de manière plus ou moins docile. Parce que j'entends aussi toutes les réflexions qu'ils font, comme quoi ils en ont marre, que c'est un peu pénible de respirer. Mais bon, c'est pas grave, on s'habitue, on a l'habitude et... Et moi, en tant que maman, en fait, ça me dérange qu'ils s'habituent à des choses qui sont inconfortables pour eux. Parce qu'on les a entendus quand même hein, dire à plusieurs reprises que c'était mouillé dans le masque, ça donnait de la buée. Enfin, moi, je n'ai pas entendu que ça passait bien, en fait. J'entends aussi l'autre côté. Et oui, ils sont habitués, mais ce n'est pas normal qu'ils s'habituent à quelque chose qui est dérangeant pour eux.
Rodrigo, toi, comment tu réagis là-dessus?
En fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle où on ne veut pas changer les habitudes face à une situation sanitaire ou sociale aussi qui évolue dans notre pays. Un peu de déni aussi de la France à ne pas avoir pris le pli des nouveaux comportements qui sont liés en fait au monde dans lequel on évolue. Et d'un autre côté, aussi ce déni de notre pays à vouloir regarder aussi ce qui se passe ailleurs et comment les autres peuples, les autres cultures, les autres organisations réagissent en fait à ces risques-là. Moi, par exemple, je viens d'Amérique du Sud, je viens du Chili, c'est un pays qui fait 4000 km de long, sur une 120 globalement de large. Selon qu'on habite au nord, au centre ou au sud, on n'a pas les mêmes comportements vestimentaires et la même façon de se protéger de l'adversité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'avère que, rappelez-vous, et ça m'est un peu plus ancien, il y a eu dans les années 80 la question des gaz CFC, ce qu'on appelle les gaz à fluor, qui est dans les aérosols et qui provoquait le trou de la couche d'ozone. Or, il s'avère que ce trou de la couche d'ozone, précisément, était dans le pôle sud, et que la moitié du temps, il était sur le pôle sud, et l'autre moitié du temps, il était dans les terres australes du Chili, c'est-à-dire au pôle sud, vers la terre de feu, tout ça. Et il s'avère que dans ces pays-là, qui est le même, c'est-à-dire l'Argentine et le Chili, eh bien, les gens ont dû adopter d'autres comportements pour s'habiller, notamment en mettant des vêtements longs, de mettre des crèmes solaires régulièrement parce qu'il y avait des cancers de la peau qui évoluaient. Je prends cet exemple parce que c'est malheureusement le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que la façon dont nous vivons, la façon dont nous consommons, la façon dont nous mobilisons ont des influences sur la planète et aujourd'hui, réchauffement climatique, etc., vous voyez de quoi je veux parler. Donc oui, aujourd'hui, la France est dans une situation dans laquelle il y a une pandémie et que par rapport à cela, tant que tout le monde n'est pas vacciné ou qu'on n'a pas trouvé en fait la façon d'être immunisé par rapport à une épidémie, eh ben, il va falloir changer nos comportements. Est-ce que ça va être momentané je l'espère. Est-ce que ça va être permanent? Je n'en sais rien et je ne souhaite pas. En revanche, ce que je sais, c'est que quand on regarde de l'autre côté de l'hémisphère, non pas vers l'Amérique cette fois-ci, mais vers l'Asie, eh bien, il y a une habitude qui a été prise, qui est devenue un mode de vie, où quand il y a trop de pollution,
oui,
et évidemment, évidemment, la pollution est terrible et qu'il faut lutter contre ça, ou quand vous avez des gens qui sont malades, qui risquent de contaminer les autres ou de se contaminer eux, eh bien, ils mettent des masques automatiquement. C'est-à-dire que oui, nous allons devoir changer nos habitudes, non pas pour les inclure avec défaitisme et avec abnégation ou avec résignation, mais parce que c'est malheureusement l'état de la planète. Et je pense que c'est cela qu'il faut dire aux enfants. Expliquer la situation, car la meilleure façon de ne pas se résigner et d'agir sur soi et sur les autres, c'est de comprendre ce dont quoi nous sommes. Et malheureusement, eh bien aujourd'hui, oui, le masque est une façon, un geste barrière pour se protéger d'une épidémie sur laquelle, eh bien, écoutez, nous avons peu ou très peu de prise en fait pour pouvoir s'en protéger. Donc apprendre cela aux enfants, c'est les éduquer et c'est la meilleure façon aussi qu'il n'ait pas un risque psychique, puisque vous avez une psychologue sur votre plateau. C'est-à-dire que plus on explique aux enfants la situation, plus on les rend acteurs de leur propre protection, et bien moins ils auront le sentiment, ou en tout cas moins ils seront susceptibles de vivre cela comme une privation de liberté ou alors comme quelque chose qui leur fera du mal. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est seulement le masque qui protège? La réponse c'est non, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en avant dans votre émission.
Oui, bien sûr. Et j'ai pu interroger une lycéenne qui me disait oh ben, de toute façon, il faut mettre le masque, donc ben, on le met. Et il y a même un enfant de 3e qui me dit, parce que je lui dis, mais est-ce que vous n'êtes pas résigné face au masque par habitude? Il m'a dit, mais c'est une obligation. Donc, comme c'est une obligation, nous n'avons pas le choix, donc on le fait. Donc on voit bien qu'il y a les primaires qui se posent énormément de questions et qui sont pris pour cible quelque part. C'est ce que m'a dit la petite fille de 6 ans. Elle m'a dit « Oui, mais moi, je mets le masque parce que j'ai peur pour ma maman et mon papa ». Quand on entend ça, ces paroles-là, Lise, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est très violent d'entendre un enfant d'avoir peur pour ses parents.
Oui, c'est extrêmement violent et c'est pour moi le signe d'une société qui va mal, car naturellement ce sont aux adultes de protéger les enfants et pas aux enfants de protéger leurs parents. Depuis le début, on entend en effet beaucoup d'enfants, d'adolescents qui veulent, qui disent ben oui, moi le masque, moi j'ai personnellement, hein, j'ai interviewé aussi des ados qui me disaient ouais, c'est pas pratique, ou oui, je suis asthmatique et c'est vrai que c'est compliqué pour moi, ou j'ai des lunettes et je vois plus rien au tableau, mais quand même je l'accepte parce que bon ben si ça peut sauver la vie de mon papy, de ma mamie ou de mon parent même. J'ai des enfants aussi ou des ados qui m'ont dit de mon parent parce que mon père a un problème cardiaque, etc. etc. Mais bien sûr que c'est important, comme disait Rodrigo, de donner que les enfants puissent donner du sens à ce qui se passe. Le problème que moi je vois, c'est qu'on n'est pas dans la réalité. On est dans un espèce de délire collectif et on est tous happés dans ce délire collectif. On n'est absolument pas sûr que le masque protège, pour ne citer que le masque. Il n'y a aucune étude qui montre que le masque protège. Et j'ai vécu quelque temps en Angleterre et je sais qu'en Angleterre, les enfants ne portent pas de masque dans les écoles. Je ne crois pas qu'ils aient connu d'ailleurs de pic par rapport à l'épidémie depuis le début. Il y a d'autres pays comme la Finlande où personne ne porte de masque non plus, les enfants ne portent pas de masque jusqu'à l'âge de 16 ans. Et vraiment, je voudrais vraiment demander, est-ce que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est une notion qui est enterrée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait de cette notion? Normalement, on agit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. On sait que les enfants sont exceptionnellement malade du Covid, ou en tout cas qui ne développe qu'exceptionnellement des formes graves. Alors, j'ai une sœur, en fait, qui est chef de service en pédiatrie dans le plus grand hôpital d'Île-de-France et qui me dit que depuis 2 ans, elle a eu 0 enfant mort du Covid. Mmh. 0 enfant. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Parce que là, on parle du masque, parce que le masque, c'est le signe visible. Mais il y a eu tous ces gestes barrières, toutes ces distanciations dites sociales qui sont mises en place là depuis 2 ans et qui sont extrêmement nocives pour les enfants. Alors, oui, pour que les enfants puissent mettre du sens, puissent avoir un regard critique sur ce qui est en train de se passer, mais non pour les gaver, parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer de mon point de vue, c'est qu'on les gave avec cette propagande gouvernementale selon laquelle il faut absolument avoir peur sans cesse. Et pour moi, c'est ça qui est criminel pour les enfants, c'est que ça fait 2 ans qu'ils sont matraqués de peur, matraqués de sentiments de culpabilité. Alors oui, bien sûr, ils sont empathiques. Alors ils n'ont pas envie que les autres, que leur papa, que leur maman, que leurs grands-parents aient des soucis de santé. Mais c'est criminel de jouer sur justement ce sentiment de culpabilité. Et maintenant, ça suffit, quoi. Les enfants, ils ne sont pas comme nous. Ils ont un cerveau qui est immature, qui est en plein développement. Et là, ils sont en train de se développer, non pas depuis des zones, en fait, de sécurité, d'ouverture qui rendent les apprentissages possibles, mais depuis des zones de survie au niveau psychique. Et ça, ça fait des dégâts sur le long terme.
Mais on peut voir aussi au niveau des relations. Moi, j'ai posé la question justement à tous ces jeunes. Au niveau de vos relations, est-ce que c'est une conversation que vous avez entre vous sur le masque? Eh bien, non, ils n'en parlent pas du tout entre eux. Ce n'est pas vraiment une conversation qu'ils ont. Pourquoi le masque? Pourquoi pas? Ils évitent ce sujet parce que ça les embête.
On oublie une chose chez les enfants des primaires, c'est qu'ils ont des oreilles. Et souvent, les parents ou la télévision, bon, ils entendent des choses.
C'est ça.
Mais on croit qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Si, si, si. Ils emmagasinent très, très bien ce qu'ils entendent. Moi, je vois ma petite fille qui a 6 ans, de temps en temps, elle nous raconte des trucs, elle nous dit des choses. On dit, mais où t'as entendu ça? Donc, on oublie qu'ils entendent très bien ce qu'on dit. Et quand on parle de la peur qu'ils ont sur leurs parents, leurs frères et sœurs de communiquer, c'est ça, hein, parce qu'ils l'entendent à longueur de temps,
c'est ça, tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose, Rodrigo?
Oui, juste réagir. En fait, je ne pense pas qu'on puisse dire que le masque ne sert à rien, qu'il ne protège pas, que ce soit pas, c'est pas magique. Ça, évidemment, je l'entends. D'ailleurs, il n'y a rien qui est magique. Même le vaccin n'est pas magique, parce qu'on a fait quand même mise en place une sorte de doctrine, une idéologie d'État, très largement relayés, qui ont laissé croire aux Françaises et aux Français, et à nos enfants pour le coup, que le vaccin donnait une sorte de passe d'immunité, vous savez, un peu comme Mario Bros dans les jeux vidéo, où on a une sorte d'étoile du shérif, on est vacciné, hop, 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 on contamine pas, on peut pas contaminer, c'est faux. Un vaccin, d'ailleurs, quel qu'il soit, ne protège pas à 100% ni nous ni les autres. Donc c'est cette idéologie logique qu'il va falloir casser, parce que le risque qu'il y a dans cette histoire-là, et d'ailleurs c'est ce que nous dénonçons à la FCPE, c'est que l'école s'est organisée pour protéger les adultes et pas forcément les enfants. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a une inversion des responsabilités. Il y a une inversion intergénérationnelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les enfants, dans leur construction psychique, ont besoin de savoir que les adultes les protègent, que les parents leur protègent, que les enseignants les protègent, que le gouvernement les protège. Or, dans les mesures qui ont été mises en place et la façon dont ça a été présenté, c'est aujourd'hui vacciner les enfants, mettez-les des masques, faites-leur laver les mains, distanciation physique, manger comme il faut, etc. Mais pas pour se protéger eux, mais davantage pour protéger les autres. Et ça a commencé, à juste titre d'ailleurs, parce que les enfants devaient faire attention pour ne pas contaminer leurs grands-parents. C'est-à-dire que dans notre société, clairement, les enfants ont été facteurs de porter la mort et de porter l'infection des autres. Or, nous savons aujourd'hui, les études le disent, que c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc il y a quelque chose qui relève de l'inversion des responsabilités, des relations entre les générations, qu'il va falloir réparer. Et aujourd'hui, c'est cela que je pense qui doit être le maître mot de tout le monde, c'est comment est-ce qu'on répare ces enfants qui, d'une certaine façon, ont été abîmés par la façon dont on a géré la pandémie. Parce qu'on a beaucoup fait semblant, le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, a beaucoup fait semblant de dire qu'on contrôlait la situation. Or, personne n'a contrôlé la situation, ni en France, ni ailleurs. Oui, il y a une boîte à outils qui était en disposition. Tout le monde n'a pas fait les mêmes choix. Par exemple, vous parliez de la Suède, du Danemark, de la Norvège à l'instant avec votre invité. Eux n'ont pas fait le choix du pass sanitaire. Maintenant, ils le font. Mais c'est une boîte à outils. la question que la France a fait le choix d'un certain nombre d'outils. Certains ont été efficaces, d'autres moins, mais ils ont surtout été inefficaces parce que les moyens financiers, matériels et humains à l'école n'ont pas été mis à disposition. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a maintenant 22 mois, je me retrouvais sur un plateau d'une émission de très grande antenne de chaîne continue. Je portais pour la FCPE l'idée qu'il fallait tester les enfants, rappelez-vous, et ça va vous parler dans l'Oise, les enfants qui revenaient de voyages scolaires de Lombardie et d'Asie du Sud-Est. Ça a fait le cluster de Creil. Eh bien, écoutez, quand nous disions qu'il fallait tester ces enfants pour savoir pour eux d'abord s'ils étaient porteurs de la Covid, sur laquelle on savait peu ou pas grand-chose, ou qu'ils étaient susceptibles de contaminer les autres, on nous disait que la FCPE était anxiogène, que la FCPE était criminelle, que la FCPE créait de l'angoisse dans la population. Excusez-moi, quand on est dans une maladie de cette ampleur, et nous savions, parce qu'il y a dans notre pays quelque chose qui s'appelle les Français de l'étranger, donc nous savions très bien ce que mettaient en place les autres pays par rapport à la pandémie dans les lycées français de l'étranger, eh bien oui, ce qui allait arriver allait être dur. Et il y a eu ce déni de réalité qui fait que on n'a pas mis les moyens pour faire face à ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, 4 ans après, on sait où est passé l'argent. Par exemple, et c'est pas un scoop ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la FCPE, c'est la Cour des comptes, qui dit clairement que Jean-Michel Blanquer a rendu un demi-milliard d'euros à son collègue du budget. Il a rendu un demi-milliard d'euros des enfants, des enseignants, des personnels accompagnants, des personnels éducatifs, des psychologues scolaires, des médecins scolaires qui auraient été utiles en temps de pandémie. Eh ben non, le ministère de l'Éducation est quasiment le seul ministère qui a fait des économies pendant ce quinquennat en pleine période de pandémie. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il va falloir réparer. Et pour se réparer, bah, écoutez, il va falloir faire avec vous, moi, toutes celles et ceux qui ont réellement les mains dans la France.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, notamment sur la Cour des comptes. C'est vrai qu'on aurait pu offrir aux enfants, et moi je sais que la FCPE, vous en parlez beaucoup, les masques inclusifs, on peut voir effectivement donc le bas du visage, la bouche notamment, et chez les professeurs et chez les enfants. Ça fait plus d'un an qu'on entend parler de ces masques inclusifs, et là j'ai eu une prof en ligne qui me disait « Ah !» Super, on vient de recevoir les masques inclusifs, alors que ça aurait dû être mis en place beaucoup plus tôt. Et il y a un problème aussi avec le masque, parce que les enfants ont du mal à le mettre. Souvent, c'est les professeurs qui remettent le masque. Souvent, les enfants sont obligés de changer le masque parce qu'ils ont eu fait sport, etc. Et souvent, les professeurs sont obligés de donner des masques aux enfants parce que des parents ne peuvent pas toujours payer tout. Et c'est un sacré budget, il faut quand même le dire. C'est quand même deux masques par jour. Féfé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce que tu as entendu? Toi, comment réagissent tes ados face à tout ça?
En fait, moi, mes ados, ils subissent ce protocole. Ils s'y adaptent également. Hein. Ils n'en parlent pas non plus avec leurs amis. En fait, je leur demande des fois s'ils communiquent un petit peu entre eux. Moi, ils m'expliquent leur mal-être. Ça les perturbe, en fait, de ne pas voir le visage de leurs camarades. Ils ne mangent plus à la cantine depuis un moment, ils rentrent à la maison. Et donc avant, l'année dernière, quand ils étaient à la cantine, sur l'instant du déjeuner, ils pouvaient se voir. Cette année, ils me disent qu'il y a des camarades qui n'ont jamais vu le visage. C'est et c'est hyper perturbant pour eux. Bon, après, c'est des ados, hein, moi, ils sont dans une phase aussi.
Ils se posent beaucoup de questions sur leur personnalité.
Bien sûr, et ils sont dans la construction d'eux-mêmes et de la confiance qu'ils vont développer en eux. Mais tout ça, c'est hyper compliqué, en fait, pour eux, comme je vous dis, de ne pas voir un visage en entier. Enfin, peut-être que pour nous, les adultes, ça nous semble normal et ça passe, mais pour eux, c'est compliqué.
Oui, et puis ils ne voient pas non plus le visage du professeur, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que nous, on le voit bien, hein, le gouvernement parle beaucoup de bénéfices et risques. Moi, je me rappelle toujours que l'année dernière, M. Blanquer jouait beaucoup en disant que c'était l'école du bien-être et de la réussite éducative. Là, on se demande le bien-être de l'enfant, des ados, est-ce qu'il est respecté? On ne sait pas trop. Hein. On a l'impression qu'il subit, et ça, c'est une personne qui m'a dit ça, et j'ai trouvé que c'était très bien dit. C'est une prof, il subit les variables de la société, hein, selon les protocoles. Moi, j'ai demandé à Jackie de regarder un petit peu les statistiques avec cette pandémie, le mal-être chez nos jeunes.
Oui, il y a différentes études, notamment l'INSERM, l'Ipsos, qui ont fait des différentes études, alors notamment suivant les classes d'âge, hein, au niveau des primaires, mais aussi, bon, surtout, sur les grands ados, donc au niveau 3e lycée, et puis après dans le supérieur. Donc on voit vraiment que là, il y a des choses importantes qui se passent. On voit 32% des 16-24 ans, donc fin de 3e, lycée et autres, hein, qui ont vraiment des troubles de santé mentale. 2 jeunes sur 3 estiment que la crise actuelle va avoir des conséquences négatives sur leur santé. 2/3 des 16-24 ans avouent que les émotions ressenties au cours des dernières semaines ont rendu difficile leur travail, leur vie en général, et l'entente avec leur entourage. Donc là, c'est vrai qu'il y a des problèmes aussi de sociabilisation, de lien entre chacun, notamment par le port du masque. C'est vrai que c'est pas évident de se voir, de se reconnaître. Un peu plus d'un jeune sur 5 qui rapporte des symptômes de troubles dépressifs. Donc des troubles dépressifs, ça veut dire des troubles sévères, de tout ce qui est anxiété, de tout ce qui peut amener après sur des évolutions au plan de vue psychiatrique. On voit que malheureusement dans les
cabinets de psychologues,
les différents cabinets, il y a des gros problèmes de gens qui arrivent dans ces cabinets-là, notamment des jeunes. Il y a une étude qui a été faite aussi au niveau international. Alors, c'est chez nous, mais aussi sur de différents pays. Hein. On voit que sur 25 000 adultes de 10 pays, il y a des jeunes donc de 16-24 ans qui rapportent aussi des idées suicidaires, hein, de plus de 22%. Donc là, et après, on voit chez les plus petits, cette étude, qui montre que 22% d'entre eux ont quand même des troubles des sommeils. Donc chez les 6-9 ans, des troubles de sommeil qui apparaissent. Et il y a aussi d'autres troubles, de l'anxiété, de la dépression et du stress, donc chez certains élèves.
Tu peux nous dire quelque chose sur les jeunes que tu rencontres, toi, Lise ?
Moi, je suis très inquiète pour ces jeunes. Je vais donner quelques exemples. Un enfant de 6 ans qui rentre dans mon cabinet chaque semaine et la première question qu'il me pose, c'est « Est-ce que tu es sûre que tu as tout désinfecté ? T'es vraiment sûre ?» Un autre enfant de 8 ans qui m'explique, qui me dit, tu sais, y en a avec leur masque, ils respirent quand même. Il y en a avec leur masque, ils respirent quand même. Tu sais, je le sais parce que je sens l'air sur les côtés de leur masque quand je suis à côté d'eux. Et ben, tu sais quoi, moi, maintenant, j'arrive à retenir ma respiration. Voilà, il était tout content de me dire ça. Je trouve ça extrêmement, extrêmement inquiétant. Ou ces enfants qui arrivent et qui veulent absolument du gel hydroalcoolique, même si on sait que le gel hydroalcoolique est extrêmement nocif pour les mains.
Ça devient vraiment une obsession, en fin de compte.
Ça devient des tocs. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer une société de tocs. Et encore, comme le note plusieurs psychologues, en fait, on est encore en termes de traumatisme, on est encore dans la scène traumatique, on n'est même pas dans l'après encore. C'est-à-dire que là, déjà, on voit des troubles, on voit des dépressions, on voit des adolescents, vous parliez tout à l'heure d'adolescents et du mal-être des adolescents. Moi, j'ai reçu l'année dernière un adolescent de 17 ans qui passait son bac, qui était complètement découragé. Alors, juste pour parler du masque, il me disait de toute façon... Moi, j'entends rien, donc je m'endors dans la classe. Et j'ai interrogé aussi des professeurs qui me disaient qu'en effet, de façon très, très significative et notable, il y avait beaucoup d'adolescents qui s'endormaient, en fait, pendant les cours, bien plus qu'avant le masque. Mais au-delà de cet aspect, c'est surtout que cet ado qui avait l'habitude d'organiser des sorties, de voir ses amis, restait prostré, en fait, chez lui, dans son lit, et avait des idées suicidaires et m'a même dit, tu sais, moi, la mort, ça me fait pas peur. Et c'est vrai que j'y pense beaucoup depuis un an. Ce que je voudrais dire, et là où je voudrais mettre l'accent, c'est que nous sommes vraiment des êtres de lien. Et que voir la santé juste d'un point de vue de « il faut pas attraper le virus », déjà, je pense que c'est extrêmement discutable parce qu'il n'y a pas consensus là-dessus, malgré ce que veut nous faire croire le gouvernement au sujet des masques. Et je ne parle même pas du vaccin chez les enfants, qui est un autre sujet. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que nous sommes des êtres de lien. Et quand on coupe cette possibilité pour des êtres en formation, que sont les enfants et les adolescents, d'être en lien, et même pour les jeunes et pour les adultes que nous sommes, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et être en lien, c'est ça aussi qui permet d'avoir une bonne immunité, de pouvoir rire avec des amis, de pouvoir échanger, de pouvoir se toucher. Est-ce qu'on a pensé à ces adolescents avec les gestes barrières, la distanciation sociale? Est-ce qu'on a pensé à eux? Comment est-ce qu'ils vont faire pour apprendre les codes de séduction? Comment ils vont faire pour s'approcher des autres? Vous savez, j'imagine que vous avez tous le souvenir que quand on est ado, on a besoin de se sentir, de se coller aux autres, de se déplacer avec les autres, de s'embrasser. Tout ça est interdit. Qu'est-ce que ça va donner sur le moyen et le long terme?
Moi, c'est pareil, j'ai interrogé une jeune lycéenne. Elle me dit, pour le port du masque, au départ, c'est compliqué. Il y a un temps d'adaptation. Le port, on l'oublie par moment, ce fameux masque, presque un réflexe, une peur. Je n'ai pas mon masque, ça devient une angoisse. Et elle me dit même que la peur d'aller là où il y a du monde, avant, elle y allait. Et maintenant, elle n'a plus d'envie, car elle a perdu déjà l'habitude. Et elle dit, on parle que les jeunes s'isolent dans leur chambre, mais effectivement, elle préfère rester dans sa chambre plutôt que d'affronter les autres par peur d'attraper quelque chose. On voit vraiment qu'il y a une très, très grosse angoisse chez les jeunes, effectivement.
Notre thème du jour, le port du masque à l'école. Pour cela, nous recevons Lise Natanson, psychologue, Féfé, une maman, et M. Rodrigo Arenas Nunoz, adhérent FCPE National.
Donc, on était en train de parler du masque des apprentissages. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute Marie-Estelle Dupont, qui est en interview début de septembre sur RMC avec Apolline de Malherbe.
En crèche, il y a des retards de parole.
Parce qu'en crèche, en effet, l'enfant ne porte pas le masque, mais les accompagnants portent le masque.
Oui.
Donc l'enfant a face à lui quelqu'un dont il ne voit plus.
S'humanise en voyant comment l'adulte en fait forme les lettres, labiales, gutturales, etc. Il imite un petit mammifère, il apprend par l'imitation. Donc c'est les liens d'attachement aussi qui sont perturbés parce qu'on décrypte plus les émotions sur le visage. Les adolescents qui ont des complexes, en fait, on leur prescrit leurs symptômes. Garde ton masque. À l'âge où ils ont besoin justement de construire leur confiance en eux. Donc le masque est extrêmement délétère sur le plan psychique. Alors on va me dire, oui, mais les enfants s'adaptent. Alors je vais vous rappeler que personne ne s'adapte mieux qu'un enfant, parce que l'enfant, pour sa survie, il a besoin d'appartenir au groupe des adultes et de garder leur confiance. Donc il est prêt à faire n'importe quoi. Dans une famille maltraitante, un enfant se soumet, il est très sage, il ne fait pas de bruit, il accepte toutes les injonctions folles. Donc je crois que nous, adultes dans cette société, on doit vraiment penser à comment on protège les mineurs de nos problèmes et de nos angoisses.
Donc c'est pas un argument de dire les enfants s'adaptent.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sauvera pas les personnes âgées en sacrifiant les jeunes. Et aujourd'hui, on est dans un glissement sémantique. On dit, oh, ben, ça va, les enfants, les jeunes, on leur demande un effort. Non. Un effort, c'est frustrer un désir. Un sacrifice, c'est renier un besoin. On est en train de renier les besoins de la jeunesse. Et pour moi, on ne sauvera rien. Par contre, on suicide notre société, on suicide notre futur et on s'assoit sur nos valeurs.
Vous voyez, c'est intéressant parce que souvent on parle de l'école, mais on oublie effectivement ce qui se passe en crèche. Et donc là, on voit que Marie-Estelle Dupont, on a bien parlé. Moi, je suis allée sur le site du gouvernement FR, Info Coronavirus Éducation. Et sur ce site, on peut lire, hein, donc je cite, « Pour les adultes et les élèves à partir de 6 ans, donc les élémentaires, collégiens et lycéens, port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire. » Et donc, pour les élèves de moins de 6 ans en école maternelle, port du masque déconseillé conformément aux recommandations de l'OMS. Alors moi, je suis assez étonnée parce qu'on dit que pour un enfant de moins de 6 ans, ce n'est pas bon de porter un masque. Et donc, celui qui a 6 ans en CP, on leur met le masque. Je ne vois pas trop la différence entre le fait d'avoir moins 6 ans et d'avoir 6 ans en CP, où là, l'apprentissage, effectivement, et ça, je pense que tu vas nous éclaircir là-dessus, donc Lise, c'est essentiel quand même, l'apprentissage, de voir la bouche du professeur.
Mais évidemment, c'est essentiel à plusieurs niveaux. C'est essentiel tout simplement au niveau des apprentissages de base. On imagine mal un enfant de 6 ans qui peut apprendre à lire, qui peut apprendre comment on prononce certaines syllabes et à quoi ça correspond au niveau sémantique et comment il peut l'apprendre s'il ne voit pas le visage de l'enseignant. Alors heureusement, je sais qu'il y a des enseignants qui ont du bon sens et qui pour dans ces moments-là enlèvent le masque pour montrer aux enfants comment on prononce les syllabes. Je reçois aussi des adultes et des personnes qui travaillent, des éducatrices qui travaillent en crèche et qui disaient que parfois, quand elles enlèvent leur masque,
les enfants
ont des gestes de protection et de sidération dans leurs yeux, de peur en fait, parce qu'ils ne reconnaissent plus leur éducatrice ou leur puéricultrice. Ça interroge énormément. On sait très bien, comme le disait Marie-Estelle Dupont, que c'est l'âge où se construisent, où commencent à se construire les intelligences émotionnelles et relationnelles. Moi, j'interviens aussi auprès des écoles dans le cadre de projets depuis 10 ans sur le développement des intelligences émotionnelles et relationnelles et sur la communication bienveillante. Et c'est une catastrophe si on ne peut pas voir le visage de l'autre pour apprendre l'empathie. Comment on peut être en empathie si je ne vois pas le visage de l'autre? Ça explique d'ailleurs aussi pourquoi certains enseignants parfois manquent d'empathie cruellement là depuis 2 ans envers les élèves. Je ne dis pas que c'est nouveau, mais déjà eux-mêmes ils sont sous pression, et c'est j'ai aussi beaucoup de témoignages d'enseignants qui disent combien c'est difficile d'enseigner avec un masque parce qu'on a beau s'habituer, je pense que ils sont obligés de parler très fort, etc. Donc oui c'est hyper impactant, tant au niveau des apprentissages de base pour les enfants que pour les apprentissages les intelligences émotionnelles et relationnelles.
Alors c'est vrai que moi, il y a une prof de CP qui me disait que le son est important pour verbaliser, pour s'exprimer et pour construire son langage. Et comme avec le masque, des fois, ils n'entendent pas très bien comment on fait les sons, ils ne voient pas la bouche, et ben c'est problématique pour parler parfaitement. Elle me disait aussi, ce qui était gênant au niveau du masque avec les jeunes de CP, c'était, on voyait que les yeux. Et les yeux, souvent, on voit la colère dans les yeux, hein, on fronce les sourcils, etc. Mais quand on sourit, on ne le voit pas forcément. Et elle dit tout ça, toutes ces émotions, comme tu le disais si bien, Lise, ben, tout est faussé, effectivement.
J'ai une enfant comme ça qui me disait, tu sais, je ne sais pas si je peux m'approcher d'un groupe d'enfants, parce que comme je ne vois pas leur expression, ben, je ne sais pas s'ils ont envie de m'accueillir ou pas dans leur groupe. Mmh.
Mais c'est exactement pareil pour le collège, hein. Quand on apprend l'anglais ou une autre langue, c'est vrai, on nous dit oui, mais on entend, oui, mais on ne voit pas la façon dont il faut mettre la langue au niveau de la bouche, etc., pour faire d'autres sons qu'on n'a pas en français. Rodrigo, tu veux intervenir là-dessus ?
Il y a deux questions dans ce que vous dites. Il y a d'abord la question des apprentissages. Donc oui, effectivement, les masques influent sur les apprentissages, mais pas seulement. Ils influent aussi sur les façons dont on rentre en relation les uns avec les autres, parce que comme n'importe quel anthropologue le dirait, nous sommes des homo sapiens, c'est-à-dire qu'il y a une partie que nous avons tendance à oublier, nous êtres humains, c'est que nous sommes des animaux, et qu'en l'occurrence la façon dont nous positionnons les lèvres, dont l'expression du visage est très importante dans la façon dont nous rentrons en interrelation les uns avec les autres. Et oui, aujourd'hui il y a des études qui sont en train de sortir sur ce sujet qui indiquent qu'il y a des retards cognitifs et des difficultés des enfants à rentrer en relation les uns avec les autres ou avec les adultes du fait de porter un masque depuis aussi longtemps à l'école ou ailleurs aussi dans les espaces publics. Donc oui, ça a un impact. Maintenant, ce que ça m'évoque en fait, parce que ce qui est intéressant dans vos émissions, c'est que ça fait vagabonder l'esprit, et c'est ça qui est intelligent, il me semble. Nous avons tort, il me semble, de vouloir mettre des mesures pour retrouver l'école d'avant. Cette école dans laquelle on a tous les images d'Épinal, notamment celles et ceux comme vous et moi qui n'y sommes plus, ou les enseignants qui tentent de reproduire en fait une école qu'on leur a appris et qui aujourd'hui a bien du mal à résister au Covid autrement qu'en s'adaptant et en essayant de reproduire l'école d'avant. Par rapport à ça, il me semble que le Covid nous oblige en fait à faire disrupter l'école. On ne peut plus faire la classe comme avant, on ne peut plus considérer les enfants comme avant, on ne peut plus considérer les relations entre les acteurs scolaires comme avant. Il y a d'ailleurs dans votre émission différentes personnes d'horizons différents, et nous avons tous, non pas un avis, mais des réflexions sur l'école. Maintenant, la question, c'est combien, c'est qu'est-ce que nous devons faire ? Parce qu'un jour ou l'autre, vous espérez quand même, on va sortir du Covid, mais les problèmes seront toujours là. Comment est-ce qu'on va réparer ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de récupérer les retards cognitifs ? Comment on va permettre de faire en sorte que les gens rentrent en interrelation les uns avec les autres ? Comment est-ce qu'on va cesser cette école en fait qui sépare la main et l'esprit ? Et je vous dis ça parce que les lycées pro en France ont été traités de façon très discriminée
par rapport aux lycées généraux. On a cette image d'Épinal où on imagine toute la classe, on va dire, normale, la classe de l'enseignante avec ses 24 ou 26 élèves selon qu'on est en REP ou en REP+, ou en ZEPS, peu importe l'acronyme, je les donne tous parce qu'on a tous un peu de vécu là-dessus, et on a ces constructions dans notre tête. Avec les tables, les chaises, l'enseignante et son tableau noir ou son tableau lumineux. Tout ça a vécu parce qu'il y a d'autres formes de faire l'école aujourd'hui qui existent, et je prenais celle du lycée pro et du lycée général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants doivent aussi apprendre le travail manuel, quel qu'il soit général ou qu'il soit pro. Et les lycées pro doivent aussi apprendre du travail intellectuel qu'on leur a supprimé pendant ce quinquennat. Je pense notamment à la philosophie, je pense notamment à la réduction des heures de français, je pense à toutes ces matières, ces disciplines qui sont nécessaires encore pour réfléchir. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est une fois qu'on sera sorti, on va résister du mieux qu'on peut à tout ça. Évidemment, c'est d'imaginer une autre école, parce qu'on ne pourra plus continuer l'école comme elle était. Je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, les enfants devront aller aux toilettes quand ils en ont besoin, et pas seulement quand le règlement à l'intérieur l'autorise. Aujourd'hui, les enfants devront se laver les mains quand ils en ont besoin, et pas seulement quand il y aura une place au robinet. Aujourd'hui, les salles de classe vont devoir avoir des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air, notamment dans celles qui sont été construites dans les années 2000, qui sont des baies vitrées. Parce que oui, la question de la qualité de l'air est devenue centrale, et pas seulement pour les questions de la pollution. Oui, aujourd'hui, il va falloir manger différemment, non pas parce que il va falloir avoir une table individuelle, c'est parce que la façon dont on interagit les uns avec les autres, et le contenu de l'assiette aussi, va devoir changer. Vous voyez, toutes ces questions-là sont au cœur d'un projet de l'école. Et cela n'est pas sur la table aujourd'hui, parce que, excusez-moi de politiser deux secondes les choses, mais moi je regarde un peu les programmes électoraux, notamment pour les présidentielles. L'école n'est pas au cœur. Et on ne peut pas avoir une école qui change et avoir une société qui change si, par exemple, on ne diminue pas les effectifs dans les classes. Donc dire qu'on va remplacer les enseignants par des robots, par des automatismes, par des applications numériques,
oui, par des MOOC
faites par Google ou par les plus grandes multinationales numériques du monde, eh bien oui, on ne peut pas aujourd'hui baisser les effectifs pour faire en sorte de numériser, automatiser et tayloriser le métier d'enseignant, mais aujourd'hui on doit diminuer les effectifs parce que c'est la meilleure façon de lutter contre la contamination d'une part, mais aussi la meilleure façon de pouvoir rattraper et de réparer ces enfants qui ont été cassés pendant le Covid. Donc oui, et ça demande de l'argent, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on va mettre les milliards d'euros sur la table dont on a besoin pour embaucher des enseignants formés, pour embaucher des assistants d'éducation en nombre suffisant, qui sont les premiers détecteurs du mal-être social? Est-ce qu'on va mettre de l'argent sur la table pour embaucher des psychologues scolaires, des médecins scolaires? Est-ce qu'on va mettre de l'argent sur la table pour rénover le bâti scolaire, les toilettes, les salles de classe, j'en ai parlé? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et la réponse, quand je regarde les programmes des candidats, de tous les candidats à la présidentielle, la réponse est non. Et ça, c'est profondément injuste pour les enfants, et c'est profondément regarder l'école avec des rétroviseurs sur le côté, alors qu'on a besoin d'une longue vue pour regarder vers l'avant et leur proposer un avenir, car c'est un peu là où je veux en venir, c'est que nos enfants auront la responsabilité de réparer le monde qu'on est en train de leur livrer. Cette inversion des générations est insupportable, et nous ne jouons pas notre rôle d'adulte en livrant nos enfants à l'inconnu sans leur donner les moyens d'agir sur le futur. Mais les parents de la SFE sont comme tous les parents. La question des ondes d'une fédération, c'est d'être informé en temps réel et avec, j'ai envie de dire, les informations les plus valides, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, notre fédération, par exemple, envoie régulièrement des informations, soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter notamment, soit par des communications internes à travers la section départementale, notamment les informations qui sortent de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Mmh. Donc, parce que c'est ça qui fait autorité pour nous, il nous semble. C'est là où on essaye de récupérer, en fait, les dernières avancées et d'avoir des réponses qui soient à l'échelle de la planète. Par exemple, c'est ce que nous disons, qu'aujourd'hui, vacciner tous les pays dits occidentaux, c'est-à-dire l'Europe pour aller vite, les États-Unis, etc., eh bien, ça n'aura pas d'influence majeure sur le long terme si on ne vaccine pas nos compatriotes universels, c'est-à-dire tous les êtres humains qui se trouvent dans des pays où la vaccination, par exemple, ou les gestes barrières ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, oui, nous disons qu'il faut aujourd'hui lever le brevet sur le vaccin parce qu'on ne peut pas mettre un barrage ou un péage d'accès par rapport à ces populations et qu'on ne peut pas continuer à avoir cette sorte de relation de charité où on donne des doses de vaccins sans permettre aux gens de pouvoir les développer par eux-mêmes. Donc voilà.
Donc tu parles de l'immunité naturelle.
immunité collective. C'est-à-dire qu'on sait que l'immunité collective n'existera pas tant que la contamination ne sera pas combattue à l'autre bout de la planète aussi vigoureusement que nous le faisons ici. L'exemple est l'Islande, qui est un pays, comme vous le savez, qui est vacciné à plus de 90%, notamment sa jeunesse, et qui n'a pas réussi l'immunité collective, tout simplement parce que le virus circule. Il circule dans les marchandises, il circule avec les êtres humains. C'est un virus, il circule. Donc à partir de là, c'est une préoccupation d'être planétaire. C'est pour ça que nous regardons l'OMS. Donc ensuite, les parents de la FCP, vous savez, c'est comme vous, c'est comme moi, c'est comme tous les parents. Il y a plus de 80% des Françaises et des Français, de nos concitoyens et nos concitoyens, qui sont ont été ou seront des parents d'élèves. Donc nous sommes tous concernés par ça. Et nous allons tous à l'école. Donc inévitablement, nous sommes sensibles aussi aux informations ou la désinformation aussi qui circule sur les réseaux sociaux. Nous sommes sensibles aux informations ou aux erreurs de communication, voire parfois de la désinformation, on va se dire tranquillement, qui circulent dans les médias, notamment les médias mainstream. Donc par rapport à ça, notre seule arme, c'est d'informer. Et donc pour cela, nous avons des parents qui écrivent ou qui nous témoignent de ce que vous dites dans votre émission. Le masque, est-ce que c'est efficace? Le vaccin, est-ce qu'on va capter la 5G? Est-ce qu'il faut se laver les mains avec du savon, du gel hydroalcoolique? Donc nous, on essaye de donner les informations les plus à jour. Et la difficulté qu'il y a dans cette séquence, c'est qu'on n'applique pas les mêmes choses tout le temps. Parce que le comportement et les réactions par rapport à l'épidémie évoluent aussi par rapport au taux de contamination et par rapport au territoire dans lequel on habite. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande tension chez les parents d'élèves, quels qu'ils soient, que ce soit la FCP ou ailleurs. Est-ce que nous appliquons des mesures qui soient universelles, c'est-à-dire qu'elles se mettent en place partout en France, indépendamment de la famille dans laquelle on est né ou le territoire dans lequel on habite? Ou alors, est-ce qu'on donne la possibilité de l'instauration et de l'organisation de cette république que moi j'appelle un peu une république féodale, c'est-à-dire qu'elle dépend, en fait des moyens et des mesures qui sont mises par les collectivités locales. Par exemple, rappelez-vous, les masques, certaines régions les ont mis à disposition, d'autres non. Les lavabos, les lave-mains, etc., certaines régions ont investi, ou certains départements ou communes ont investi pour rénover les sanitaires, d'autres non, pour des raisons de moyens aussi. Certaines communes, certaines régions, certains départements ont mis en place du soutien scolaire, d'autres non. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas traités sur un pied d'égalité en France, et ils ne sont pas traités sur un pied d'égalité à l'échelle de la planète. Donc, à un moment donné, il va falloir changer de braquet. Et c'est ça la réflexion qu'on a. L'exemple que je vous donnais quand on a préparé l'émission ensemble, c'est que les parents de la FCPE, par exemple, en Seine-et-Marne, mais aussi ailleurs, ont acheté ce qu'on appelle des masques inclusifs, que vous avez parlé tout à l'heure. C'est des masques transparents, en fait, qui permettent aux enseignants de faire la classe. Ça, c'était il y a plus d'un an. Aujourd'hui, on donne deux masques aux enseignants. Les masques transparents, c'est pas seulement pour le Covid, c'est notamment pour les enfants qui sont des enfants à besoins particuliers, c'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes d'audition ou des problèmes pour parler. Mmh. Et ces enfants ont besoin d'une attention et d'une relation différente à l'enseignant. Et nous, notre philosophie à la FCPE, c'est quoi? C'est que l'école doit se construire d'abord pour les enfants les plus fragiles, parce que si elle se construit pour les enfants les plus fragiles, alors elle se construira aussi pour les enfants qui vont bien. Et c'est cette inversion aujourd'hui qu'il faut faire, parce que l'école française, que ce soit pour le Covid, les apprentissages ou autres, elle est d'abord construite pour les enfants qui vont bien au sens de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui ont les bonnes notes, qui tiennent bien en classe, qui disent bonjour, qui mouchent leur nez, qui disent bonjour à la dame, c'est-à-dire les enfants qui sont polis, comme dirait Jean-Michel Blanquer, les enfants qui s'habillent correctement, qui ne mettent pas des croc-tops, etc., etc., parce que sinon on les vire de l'école. Tous ces enfants-là, il faut construire l'école pour eux. Parce que si on la construit pour eux, alors on la construira aussi pour les autres. Et donc cette inversion des normes est nécessaire pour faire en sorte que l'école soit l'école de tous.
Donc là, je vois Lise qui voudrait peut-être intervenir, dire deux, trois petites choses. Donc on va l'écouter et après, on passe au masque sur la santé.
Alors je suis complètement d'accord sur la question que pose Rodrigo de comment on va réparer. Mais avant de dire comment on va réparer, parce qu'il va y avoir des sérieuses réparations à faire, parce qu'il va y avoir des sérieux dégâts sur les enfants et sur la population générale, c'est déjà comment on peut stopper ce qui est en train de se passer. Et c'est le sens, je crois que tu voulais en parler, de la pétition de Marie-Estelle Dupont et Martin Blachier. Mais c'est comment on peut déjà arrêter tous ces dégâts en arrêtant déjà le port du masque, en arrêtant la propagande autour de la vaccination, parce que là, il n'y a pas non plus un consensus. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent que c'est très bien que tout le monde se vaccine, mais il y a aussi beaucoup de médecins, et il n'y a qu'à écouter le doctoton qui a eu lieu tout récemment, en fait, pour voir, qui montre qu'il y a aussi beaucoup de médecins, beaucoup de soignants qui pensent qu'il y a d'autres solutions que la vaccination, et que la vaccination a aussi des contre-indications.
Qu'est-ce que c'est le doctoton?
Le Doctoton, c'était une initiative de Perron et puis je ne sais plus qui d'ailleurs. C'était en fait pendant 24 heures des médecins qui se succédaient. Je crois qu'il y a eu plus de 300 médecins qui se sont succédés pour parler de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait, en termes de santé publique.
D'accord.
Rodrigo parlait tout à l'heure de l'école d'avant. Est-ce que c'est souhaitable de retourner à l'école d'avant, de revenir à la normale ? Et je trouve ça tout à fait judicieux d'interroger ce que signifie en fait revenir à la normale. Parce que pour ma part, mon point de vue, c'est qu'il y avait déjà une dérive avant. Le Covid a cet intérêt, c'est en cela que c'est peut-être une crise, mais dans toute crise, il y a aussi un cadeau. Il y a aussi de la souffrance, bien entendu, mais c'est aussi un cadeau. C'est de remettre en question la société et de se dire quelle société on veut pour nos enfants. Est-ce qu'on veut une société toute matérialiste où la santé est définie de façon extrêmement étriquée ? Est-ce qu'on veut une santé beaucoup plus large pour nos enfants ? Est-ce qu'on veut développer chez eux l'esprit critique ? Alors là, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de Rodrigo de développer, par exemple, les classes les heures de philosophie aussi dans les établissements professionnels, comme développer aussi le travail manuel d'ailleurs en contrepartie dans les sections plus générales, parce que c'est vrai qu'il y a une séparation du corps et de l'esprit et une discrimination du secteur pro. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi ce que je pense en fait qui ne va pas dans l'école depuis très très longtemps, c'est qu'on veut des enfants qui soient obéissants. Et on voit bien, vous connaissez l'expérience de Milgram, où on a demandé aux gens de donner des charges électriques à des faux cobayes, il y a 80% des personnes qui vont aller jusqu'à donner des décharges mortelles. Pourquoi ? Parce que c'est une autorité qui leur disait, une autorité médicale ou après une autorité médiatique, parce que l'expérience a été retentée de façon un peu différente à la télé, qui leur disait de le faire. Et donc, ça me semble vraiment urgent d'arrêter d'aller vers une société de l'obéissance des enfants. Les nazis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les nazis ont tous dit, bah oui, mais nous, on faisait qu'obéir aux ordres. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des enfants qui développent des capacités de responsabilité, des capacités de cœur, pas juste de politique extérieure, mais de politesse, pardon, extérieure, mais de cœur, des capacités d'empathie, des capacités de remettre en question, où on veut des enfants qui vont être hyper spécialisés dans leurs apprentissages et qui vont devenir des spécialistes, parce que c'est ça, hein, on est dans une société d'hyper spécialisation, on va devenir pro d'une question, mais on va perdre de vue l'ensemble, et en tout cas, on va pas aller vers des adultes qui sont des adultes responsables d'eux-mêmes, des autres et de la planète. Donc je pense en cela, je souhaite pas du tout que nous revenions à l'école d'avant. Je souhaite que nous remettions en question l'école d'avant qui a pu aboutir aujourd'hui à ce qu'on voit avec le Covid où les adolescents acceptent docilement toutes les mesures qui sont des mesures complètement absurdes et surtout qui vont pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Alors, tu parlais tout à l'heure de cette fameuse pétition de M. Blachier et de Mme Dupont. Eux, ce qu'ils préconisent et ce qu'ils veulent, c'est le retour à la normale le 3 janvier 2022, c'est-à-dire la fin du port du masque en classe et les activités extérieures. Moi, je voudrais quand même qu'on passe directement aussi au masque et à la santé. Est-ce que tu peux nous mettre l'enregistrement ?
Évitez donc de le laver, bien le changer dès qu'il est mouillé. Pour faire simple, essayez de ne pas l'utiliser plus de 4 heures de suite. Ces préconisations sont importantes puisque les résultats montrent bel et bien la présence de substances chimiques, des dioxines, des furanes ou encore des composés organiques volatiles. Mais encore une fois, tant que vous portez bien votre masque, pas de danger car les seuils sanitaires ne sont pas dépassés. Il reste donc indispensable pour les adultes comme pour les enfants. Un conseil d'ailleurs pour finir avant de le porter, pensez à ouvrir la boîte et le sachet plastique pour aérer l'ensemble.
Voilà, donc là c'était un petit peu pour parler des masques, hein, parce que l'ANSES a appelé à éviter l'utilisation de masques FFP2 parce qu'ils contiennent du graphène, mais qui rassurent sur les masques chirurgicaux qui ne sont pas toxiques et à condition de bien les utiliser. Comment vous réagissez là-dessus lorsque vous entendez qu'il y a des produits chimiques dans ces masques ? Rodrigo ?
Il y a des produits chimiques dans tout ce qu'on utilise aujourd'hui, même quand vous mettez des jeans. Donc c'est la question, c'est est-ce que c'est nocif pour la santé ou pas? Et c'est là la réponse qu'il faut trancher. Donc moi, il ne m'appartient pas en tant que parent d'élève d'en remettre en question une parole qui a une autorité qui s'appuie sur des recherches scientifiques. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aussi aux gens qui savent. Je ne parle pas là de faire confiance à la propagande, je parle de faire confiance à l'information. Bon, d'ailleurs, je trouve que la comparaison tout à l'heure...
Oui, mais attends, juste un petit truc quand même. Parce que quand on est parent, moi je regarde la télé, je vais sur les réseaux, quand on a des contradictions entre les médecins, les scientifiques, mais nous, on fait quoi en tant que parents? On est complètement bloqués et on ne sait plus qui croire et qui entendre en fin de compte.
Ben, j'ai envie de vous dire, vous n'avez qu'à écouter la FCPE.
Oh, la pub d'enfer.
Non, mais je dis ça sérieusement, parce que même si, évidemment, je dis sous forme de boutade, mais on a toujours eu à cœur de véhiculer les informations mises à jour. Voilà. Donc, il y a des moments, puisqu'on parle du masque, il y a des moments où le masque n'était pas utile, à l'extérieur notamment. Et quand nous avons dit il faut plus mettre le masque à l'extérieur, on a eu des parents qui nous ont dit oui, mais c'est un scandale. Il faut mettre le masque aux enfants parce que vous comprenez, parce que les parents, ils sont flippés. Et ça, je le comprends. Mais moi, j'y peux rien. Nous sommes une fédération de parents. On a une existence, on a un conseil scientifique, etc. Donc, à un moment donné, oui, on véhicule ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas utile pour les enfants. Ce n'est pas utile pour les enfants. C'est comme la vaccination. Donc, on a la vaccination, la FCPE a toujours dit. On ne vaccine pas les enfants tant que l'OMS ne le dit pas, donc pas avant 12 ans, voilà, sauf pour les enfants qui ont des pathologies, diabétiques, etc. Mais ça, c'est le médecin qui doit le dire, c'est pas Facebook. C'est-à-dire que, oui, nous avons conseillé aux parents d'aller voir leur médecin de proximité, leur médecin de famille en qui ils ont confiance, qui sera à même de les conseiller, parce que c'est son métier, de dire, votre enfant, je ne sais pas, est diabétique.
Ouais, bah déjà, faut peut-être déjà avoir un médecin traitant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de médecin, c'est compliqué. Et puis, voilà. Non, mais c'est ça.
Ça n'empêche que la question de la vaccination ne réglera, oui ou non, ça ne règle pas la question du désert médical. D'accord ? Ça règle la question de s'adresser aux personnes autorisées pour donner un avis. Et en l'occurrence, il y a 17 000 enfants en France qui sont vaccinés. Voilà, il y en a beaucoup plus aux États-Unis parce que la question de l'obésité est beaucoup plus importante. Mmh. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les questions ne se mesurent pas de la même façon en fonction des pays sur la façon dont on le met en œuvre. Donc, voilà, donc, après, je vais réagir deux secondes quand même à ce qu'il disait avant, et je pense pas que ce soit le propos de votre invité. Mais comparer la France au régime nazi, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas la volonté d'éliminer une part de la population en utilisant une méthode ou une science, etc. Ce n'est pas la réalité.
Je pense que c'était plus en parlant des... C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Je pense que c'était vraiment de donner des ordres et quand on nous donne un ordre, eh ben, on se sent obligé de le faire, donc on le fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là.
Je disais simplement que les Français ont la mémoire courte et que c'était il n'y a pas si longtemps que les responsables nazis ont... On dit, mais écoutez, moi, j'étais juste responsable de mon train. Je ne savais pas où le train allait. Je ne savais pas qu'il allait dans les camps de concentration.
Je dis juste que comparé à ça, il faut faire attention. Je pense que comparaison n'est pas raison. Il y a d'autres exemples qui existent qui permettraient de parler sur un point Godwin et qui peut heurter une partie des gens. Parce que moi, ça me heurte, par exemple. Mais c'est pour ça que je dis avec beaucoup de tendresse et il n'y a pas de problème. Par exemple, vous auriez pu prendre la question des notes. On met des notes en France alors qu'on sait très bien que les notes classifient les enfants avec ce qu'on appelle la macabre et qu'en fait on reproduit des représentations sociales et non pas le niveau des enfants. Il y a beaucoup d'exemples qui indiquent le propos que vous démontrez et il n'y a pas de problème à mon niveau. Juste, je voulais préciser que voilà, c'est pas le meilleur exemple à mon sens, mais encore une fois avec beaucoup de tendresse et je ne veux pas vous faire la leçon, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout comme ça. Mais voilà, donc l'enjeu il est là aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec votre invité. Aller vers l'école d'avant, ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord avec il y a beaucoup d'études sociologiques qui disent ça, qu'on essaye d'apprendre à l'école en fait le schéma de l'atelier, l'école du XXe siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on va au-delà du masque, on est en train d'apprendre aux enfants à accepter le télétravail. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Il y a des enfants qui sont mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de rendre des examens tout le temps, qu'ils soient à la maison ou à l'école, avec des profs qui ont du mal à se coordonner ou qui ne se coordonnent pas pour donner les devoirs ou faire les examens toute la même semaine, où les gamins ils travaillent jusqu'à 2-3 heures du matin, notamment au lycée et au collège, pour préparer, puis plutôt au lycée quand même, pour préparer l'examen du lendemain. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre nos gamins sous tension, et ça, c'est pas le masque. Donc le masque vient s'ajouter à toute une sorte d'adaptation de l'école à vitesse grand V. Faisons une pause. On voit que ça marche pas.
on voit que ça passe pas. On voit que les gamins, ils se font défoncer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir autrement? Et réfléchir autrement, c'est certainement pas de mettre nos gamins aux cadences infernales avec un ordinateur. D'abord parce que ça abîme les yeux, ça crée des questions d'addiction. Masque ou sans masque. Mais avec le masque, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Parce que l'écran permet justement d'avoir quelqu'un qui vous parle sans masque. Donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'école ne soit pas remplacée par une technologie qui aujourd'hui nous maîtrise. Et donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui lie, et c'est un peu le sens de mon propos, pardon si j'ai été un peu brouillon, mais la question c'est comment est-ce qu'on lie l'arrivée massive d'une nouvelle technologie à l'école qu'on ne maîtrise pas, qui s'adosse à des justifications, à tort ou à raison, de crise sanitaire. Et là, on a un vrai sujet. Parce que vous parlez beaucoup des scientifiques, etc. Il y a une chose qui est certaine. C'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que après le corona, il y aura encore des épidémies. Parce qu'on est dans un monde globalisé lié à notre façon de vivre. Par exemple, vous parlez de la question on se contamine, etc. On met le masque alors qu'on sait, on sait tous, par exemple, qu'aujourd'hui, bouffer du poulet aux hormones, c'est pas bon pour la santé. Ça n'empêche que l'essentiel des poulets, s'ils sont pas aux hormones, ils sont nourris dans des conditions terribles, dans une filière industrielle. Et nos enfants mangent ça à la cantine. Donc vous voyez, c'est quelque chose de global. Comment est-ce qu'on change nos modes de vie? D'abord parce que c'est la meilleure façon de lutter contre les contaminations et les pandémies au niveau mondial, mais aussi comment est-ce qu'on transforme profondément l'école pour faire que l'école ne soit plus le lieu de tous les dangers. Et c'est ça qui est sur le travail. L'école est devenue le lieu de tous les dangers et ça, ce n'est pas acceptable dans un pays comme la France.
Mais on a bien compris. Là, je vois que tous les invités font tous partie d'un collectif ou d'une fédération. Pour vous, quelles sont vraiment les actions à mener au niveau du masque? Et ça sera la fin, parce qu'on me fait signe que là, l'émission se termine. Tu fais partie d'un collectif aussi, toi, Féfé?
Oui, je fais partie d'un collectif. On a créé un groupe qui s'appelle Ensemble pour nos enfants. Donc, on est actuellement en train de regrouper des témoignages de parents, d'enfants, du corps enseignant et médical. Et donc, on souhaite un rendez-vous avec le recteur. Parce qu'en fait, on souhaite en fait que le protocole sanitaire s'arrête dès maintenant. On va pas attendre en fait que nos enfants soient cassés. J'ai pris deux petits témoignages en fait pour vous montrer un petit peu les témoignages qu'on reçoit. Donc, par exemple, une femme qui est ATSEM raconte qu'un enfant de primaire, CM1, donc qui mange de la semoule couscous végétarien à la cantine, qui vient de leur être servie. Donc il doit manger en reposant son masque entre chaque bouchée pour respecter le protocole. Il vomit dans son masque et il devra se débrouiller tout seul pour nettoyer, parce que les adultes respectent le protocole.
Oui.
Une autre, une AVS, donc dans la même école, elle a été la même personne a été témoin de ça, qui est présente à l'entrée de la cour et qui hurle sur les enfants qui ne sont pas encore rentrés dans l'enceinte de l'école pour qu'ils portent leur masque. Une fois que les enfants rentrent dans l'établissement, elle vient et elle resserre les élastiques pour être sûre que les masques soient bien collés au visage. Les enfants, en fait, en portent les stigmates de nombreuses heures après l'avoir retiré. Elle se cache derrière les rideaux pour surprendre les enfants qui auraient besoin de respirer pour les réprimander.
C'est
parce qu'elle respecte le protocole.
C'est marrant parce qu'au collège, je vois, c'est beaucoup plus simple quand les enfants demandent pour respirer ou parce que ça gratte dans la gorge, donc ils ont le droit de sortir dans le couloir pour aller boire, etc. Mais moi, on m'a relaté qu'on mettait aussi des enfants dans des cerceaux pour ne pas qu'ils aillent vers les autres enfants. Donc on se rend compte qu'effectivement, selon les écoles, selon les professeurs, eh bien, il y a parfois un peu, je vais dire, un petit peu...
Chacun fait
un
sa
mot,
sauce.
Voilà, un mot qui fâche un peu de maltraitance. C'est de violence vis-à-vis des enfants.
Bien sûr, c'est
de
la maltraitance vis-à-vis des enfants, ce genre de choses. Un enfant de CM1 qui se vomit dessus et qu'aucun adulte ne vient l'aider à cause du protocole. Enfin, on est des humains, il faut arrêter. Ok, on peut avoir peur du Covid, mais les enfants, enfin, c'est notre priorité, c'est notre futur. Enfin, donc oui, nous, on fait partie de ce collectif, Ensemble pour les enfants, et on est bien déterminés, en fait, à faire en sorte que tout ça s'arrête. Et on rejoint aussi l'action du Grand Est au niveau des Hauts-de-France pour faire une sommation au recteur comme le Grand Est l'a fait. Et de nombreuses régions de France sont en train de faire la même chose.
Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que je n'ai pas suivi.
En fait, il y a une série de 19 questions qui sont adressées au recteur et qui sont déposées par huissier. Sur les différents protocoles, la vaccination des enfants. Tout sera déposé par huissier au niveau du recteur.
D'accord. Okay.
Voilà. Et je voulais juste terminer, parce qu'il est important aussi, quand on parlait d'information à aller chercher, que la défenseuse des droits de l'homme a déposé un rapport de 80 pages à notre gouvernement qui tire la sonnette d'alarme, en fait, sur les conditions de nos enfants actuellement. Donc j'invite tous les parents à aller lire les 80 pages et de voir les témoignages. Et c'est bouleversant.
C'est bouleversant. Bon, alors... C'est, tu as le site, non
pour, c'est Défenseuse des droits de l'homme, c'est son site et on trouve son rapport. Il est accessible à tout le monde.
D'accord. Lise, tu as quelque chose à rajouter un petit peu? Quelles sont pour toi les actions à mener? Maintenant, en tant que psychologue, il va falloir s'occuper en priorité des jeunes et des ados.
Oui, il va falloir s'occuper des jeunes et des ados. On a laissé mourir les vieux dans les EHPAD par ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Et ce que j'aurais envie de dire pour conclure, c'est de m'adresser aux parents, parce que tu parlais tout à l'heure de l'autorité parentale. Et c'est vrai qu'elle est vraiment mise à mal tous ces derniers temps. On le voit avec le problème de la vaccination, où à partir de 16 ans, un enfant seul peut décider d'aller se faire vacciner sans l'autorisation de ses parents.
On en avait déjà parlé de ça dans une autre
émission.
Pédago, oui, tout à fait.
Il suffit de l'accord d'un seul parent pour qu'un enfant se fasse vacciner. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. D'habitude, moi qui ai travaillé dans le domaine des violences conjugales, c'est très très compliqué quand un des parents détenteurs de l'autorité parentale n'est pas d'accord d'aller dans le sens de l'autre. J'ai envie de dire aux parents, reprenez votre puissance, reprenez vos droits. Hein. On parlait tout à l'heure de l'instruction en famille. L'instruction en famille est un droit, heureusement, et encore un droit. Malheureusement, on va passer à la rentrée prochaine d'un système déclaratif à un système d'autorisation, c'est-à-dire qu'il faudra demander l'autorisation pour pouvoir exercer ce droit de l'instruction en famille. Et j'ai envie de dire aux parents, reprenez vos droits. Je pense très sincèrement que nos enfants sont actuellement en danger, et en danger notamment dans les écoles, en danger dans les collèges et les lycées, de par le port du masque. Mais le port du masque, c'est un symptôme, c'est le signe de la peur, que les enfants sont sous terreur, mais ça va bien au-delà. Et je demande aux parents d'être vraiment vigilants, notamment là avec l'obligation, pas l'obligation, mais la vaccination qui s'en vient dans les écoles pour les 5-11 ans. Je pense vraiment que, parents, vraiment, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et surtout, essayez de retrouver votre alignement, parce que je connais des parents qui, après avoir vacciné, par exemple, leurs adolescents, l'ont vraiment regretté. Alors, je ne voudrais pas que des parents puissent regretter, après, d'avoir fait ce geste. Ils regrettaient de ne pas avoir, de pas s'être saisis de leurs droits parentaux au service de la protection de leurs enfants. Et je dis ça, évidemment, pour les enfants, parce que c'est l'avenir de notre société, comme disait Rodrigo.
Rodrigo, à toi. Mot de la fin ?
Non, c'est jamais le mot de la fin à l'école.
Je sais, oui.
Non, en fait, nous, la FCP, on a fait un sondage quand j'étais co-président qui indiquait qu'il n'y avait que 20% des parents qui croyaient à l'intérêt général et qui croyaient aux luttes collectives. Que plus de 80% des parents, en gros, étaient dans des parcours individuels où c'était un peu le sauf qui peut généraliser et qui trouvaient des solutions soit avec leur réseau personnel, qu'il soit financier ou social, soit dans le piston aussi, en essayant de contourner les cartes scolaires ou en essayant de trouver quelqu'un qui va leur permettre que leur gamin s'en sorte mieux, même si les autres s'en sortent pas bien, c'est pas très grave tant que leur s'en sortent bien. Voilà, faut accepter ça. Faut accepter cet état de fait pour pouvoir le combattre. Il y a que nous pensons à la FCPE, et moi je pense, parce que c'est ma façon d'être aussi, qu'il n'y a que des luttes collectives qui permettent d'avoir une issue collective. Et c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que si chacun essaie de s'en sortir tout seul dans son coin, oui, il va peut-être y arriver. D'ailleurs, ça existe, l'école française est construite comme ça. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que collectivement, on va tous échouer. Et il me semble que l'expérience internationale nous indique que quand il n'y a qu'une petite minorité qui s'en sort, ça se fait toujours au détriment des autres et que ce n'est pas une société pacifique qui sort de tout ça. Donc voilà, je pense que l'enjeu est un peu là. Et moi, j'invite tous les parents, quels qu'ils soient, à s'organiser collectivement, pas forcément à la FCPE, parce qu'il n'y a rien qui s'oppose, c'est tout s'additionne. D'abord, de se mobiliser, non pas pour taper dans les casseroles, etc., même si des fois c'est nécessaire, mais simplement pour
agir en tant que parents d'élèves parce que nous existons, nous réfléchissons, nous sommes un corps constitué et qu'à ce titre-là, nous devons intervenir en tant qu'acteurs, mais tout en restant à notre place. C'est-à-dire que les parents ne sont pas des enseignants, ils ne sont pas des recteurs, ils ne sont pas des élus, même s'il y en a qui sont élus évidemment, mais de vraiment s'investir pour l'école publique, avant tout, il me semble, parce que c'est la seule qui, à mon sens, est universelle, et de quelque part agir ensemble. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent et il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'il y a une technologie qui s'appelle l'Internet qui permet de s'interconnecter, d'échanger, de réfléchir et de se mobiliser collectivement dans l'intérêt des enfants. Moi, j'invite à ça. J'invite à ça parce que, vous savez, je conclurai là-dessus, j'ai été 3 ans président ou co-président avec Carla Ducot d'une fédération de parents d'élèves. Je sais aussi la limite et la relation avec des pouvoirs publics quand ils sont sourds au débat, quand ils sont sourds au travail collectif, quand ils ne veulent pas mettre en œuvre ce qui est utile pour les enfants pour des raisons de budget radin. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'issue sera à se mobiliser collectivement. Mais le sondage dont je vous ai parlé indique que le chemin va être long, mais la lutte, elle doit pas être triste. Et on est très heureux d'être parents parce que c'est nos enfants et qu'il faut être heureux de se mobiliser pour eux, et y compris leur expliquer ce qu'on fait, les associer à ce que nous faisons en restant à leur place, et les accompagner surtout quand ils se mobilisent par eux-mêmes. C'est ce que nous avons à cœur de faire dans la fédération, notamment, je terminerai sur ce dernier exemple, quand ils se sont mobilisés par le passé pour les épreuves E3C dans les lycées, qu'ils ont été profondément molestés par les pouvoirs publics, certains même ont fait des gardes à vue, ont fait des gaz lacrymaux, etc. Eh bien, je pense que nous devons avoir l'orgueil, nous les parents, de ne pas leur avoir dire « rentrez à la maison, mettez-vous sur Netflix et faites tes devoirs », mais d'avoir été à leur côté parce que leur lutte était juste, parce qu'ils se sont entrebattus pour leur avenir. Et comme le disait une autre fille tout à l'heure de chez vous, nos enfants savent très bien dans le monde dans lequel ils sont, et ils ont une capacité de mobilisation qui parfois peut nous surprendre et même parfois nous donne des leçons. Écoutons nos enfants parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et je pense beaucoup de choses à nous apprendre aussi.
Merci, c'est là-dessus qu'on va terminer. Alors c'est vrai que les collectifs et les fédérations, on ne les voit pas trop actuellement dans les médias. On espère que ceci va changer pour l'intérêt surtout des enfants.
Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement nos invités. Merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. Au revoir à tous.
Merci.
Au revoir.